Bonsoir. Clôture hier mardi 6 décembre 2022 du troisième round du processus pour la paix dans l'est de la RDC. La cérémonie a été présidée par le facilitateur Uhuru Kenyatta et sanctionnée par un communiqué final au Safari Park Hotel de Nairobi. Dans ce communiqué, le facilitateur Uhuru Kenyatta appelle entre autres au respect du principe de souveraineté de la RDC et de son intégrité territoriale. Il réitère également aux groupes armés leur engagement de cessation des hostilités. Ce communiqué annonce aussi la mise en place d'un groupe de travail constitué du bureau du facilitateur, les officiels de la RDC, les représentants de l'EAC et les groupes armés pour examiner la situation des prisonniers des groupes armés et trouver des solutions idoines allant jusqu'à leur libération. Il révèle aussi qu'il sera porté à l'attention du chef de l'État congolais la requête de certains groupes armés d'intégrer les FRDC et les forces de sécurité. Quelle est l'affaire du communiqué final sanctionnant le troisième round du processus de Nairobi? Nous en parlons ce soir avec Évariste Moufaoumé. Il est point focal du processus de Nairobi pour le sud du Sud Kivu. Monsieur Moufaoumé, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Maître Juvenal Mounoubo Moubi, député national, élu de Walikale au Nord Kivu. Il est cadre de l'UNC, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Il est aussi membre de la Commission des Forces et Sécurité à l'Assemblée nationale. Maître Juvenal Mounoubo, bonsoir.
Bonsoir, madame Célie. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kivu.
Et le professeur Nissé Mugendi, il est professeur de géopolitique et de relations internationales à l'Université catholique du Graben. Il est aussi directeur du bureau Centre d'études sur la paix et la sécurité. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment à Bounia, dans la province de l'Ituri. Vous nous suivez sous la 104.9. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, clôture hier mardi à Nairobi du troisième round du processus pour la paix dans l'est de la RDC. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final, signé notamment par la facilitation, la partie congolaise et les délégués des groupes armés. Dans ce communiqué, le facilitateur de ce processus, Uhuru Kenyatta, rappelle le respect du principe de souveraineté de la RDC et de son intégrité territoriale et demande aux groupes armés opérant sur le territoire congolais de désarmer et de retourner dans leur pays d'origine sans condition. On écoute quelques résolutions de ces pourparlers dans cet extrait du communiqué final lu par le mandataire spécial du chef de l'État pour le processus de Nairobi, le professeur Serge Tshibangu, au micro de Martial Papimukeba.
La mise en place d'un groupe de travail constitué du bureau du facilitateur, des officiers de la République démocratique du Congo, des représentants de la communauté d'Afrique de l'Est et des représentants des communautés affectées dans son tissu des groupes armés afin d'examiner la situation des détenus et prisonniers, membres des communautés locales dans son tissu des groupes armés et de proposer aux autorités des solutions idoines allant jusque à la libération. 2. La facilitation des actions en faveur des peuples autochtones vivant autour des parcs et aires protégées. 3. L'organisation à Kinshasa des rencontres entre les communautés affectées et les officiels de la République démocratique du Congo en vue de se pencher sur les revendications soulevées par les populations locales de la province du Maniema dont les cahiers de charges n'ont pas été respectés par des sociétés minières ayant opéré dans cette région. Porté à l'attention du président de la République démocratique du Congo, la revendication concernant le manque de confiance envers certains animateurs au niveau national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS. Porté à l'attention du président de la République démocratique du Congo, la requête de certains membres des groupes armés d'intégrer les FRDC et les forces de sécurité. Le facilitateur demande aux groupes armés étrangers opérant sur le territoire congolais de désarmer et retourner immédiatement et sans condition dans leur pays d'origine.
Évariste Moufaoumé, vous êtes point focal du processus de Nairobi pour le sud du Sud Kivu. Vous avez pris part à ces travaux à Nairobi au Kenya. D'abord, dans quelle ambiance se sont déroulés les travaux?
Merci beaucoup. D'abord, je m'en vais remercier les autorités congolaises au plus haut niveau. Je m'en vais remercier également les autorités de l'East African Community qui ont pu organiser ces assises de Nairobi dans une ambiance participative et inclusive, parce que moi j'ai participé dans un groupe de travail avec les groupes armés du Sud Kivu, et c'était un groupe qui était coordonné par le Consul général du Kenya, basé à Goma, et franchement c'était un cadre de discussion qui a permis à ce groupe de s'exprimer librement, d'essayer d'expliquer pourquoi ils ont pris les armes, et quelles sont les impressions qu'ils ont par rapport au PDDRCS, par rapport à la sécurité des communautés, par rapport aux engagements qu'ils ont pris depuis le premier round de Nairobi 1, suivi des consultations de Nairobi 2. De mon point de vue, c'était une ambiance tout à fait cordiale, dans laquelle les uns et les autres s'exprimaient librement dans les respects mutuels. Pour moi, c'est un fait positif. Merci.
Évariste Moufaoumé, un communiqué final a sanctionné ces travaux. Est-il contraignant, vous qui avez pris part à ces travaux?
D'abord, c'est un communiqué qui vient confirmer l'engagement que les groupes armés avaient pris dans le premier round de Nairobi 1, notamment maintenir le cessez-le-feu, faciliter le travail des humanitaires, et d'une manière générale, cela a été suivi de fait au Sud Kivu. Moi, je suis dans la zone du Sud-Sud. Je sais qu'il y a des conflits armés qui se poursuivent, mais quand vous essayez d'évaluer l'intensité des activités de groupes armés, il y a eu une réduction d'intensité des activités de groupes armés, que ce soit dans les territoires de Fizi, dans les territoires d'Ouvira, dans le haut plateau de Mwenga. Mais je reconnais qu'il y a eu des attaques dans certains points de manière localisée, mais généralement, il y a eu réduction des cas des activités, en tout cas des groupes armés, contre le civil.
Au cas où le contenu du communiqué n'est pas respecté par les parties prenantes, qu'est-ce qui se passerait, Évariste Moufaoumé?
Vous l'avez si bien dit, moi je pense que c'est une question d'état d'esprit. Les groupes armés congolais devraient comprendre qu'ils ont des raisons qui ont fait à ce qu'ils prennent des armes. Mais au centre de ça, la sécurité des populations civiles reste vraiment quelque chose de très important, y compris le respect du droit humanitaire international. Et de ce point de vue, si ils prennent des engagements, ils viennent de le réitérer à Nairobi 3, ils doivent s'assumer. Ils ont signé le communiqué final en âme et conscience, et toute personne qui était sur place, le facilitateur principal l'avait dit, y compris le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Tshibangu, c'est-à-dire ce deux moments où les groupes armés essayent en toute responsabilité de prendre de responsabilité et de suivre les effets des engagements qu'ils venaient de prendre. Moi, de mon point de vue, je pense que ce communiqué, c'est un signe de bonne volonté, c'est un signe de vouloir tourner les choses dans le sens de contribuer à la paix et à la sécurité dans les zones où opèrent les groupes armés. Aller au contraire de ça, c'est poser des actes qui vont à l'encontre des engagements pris. Et vous savez, ça a été dit clairement, il y aura de prochains pas en termes de suivi pour essayer d'évaluer quels sont les effets qu'on a par rapport à ces engagements. Et pour moi, ça, c'est un élément très important.
Il y a des groupes armés qui n'ont pas pris part aux travaux. C'est notamment le M23, le groupe Zaïre en Ituri. Est-ce que leur absence à ces travaux, parce que ce sont des groupes qui sont quand même très actifs hein, dans l'Ituri et dans le Nord Kivu, leur absence à ces travaux ne risque pas de poser problème?
Écoutez, madame, le plus important pour le moment, c'est de cheminer avec les groupes qui pensent qu'il faut continuer à dialoguer, il faut continuer à s'approcher avec les plus hautes autorités du pays et avec la communauté de l'Afrique de l'Est. Et de mon point de vue, ça c'est déjà un pas. Étant donné qu'on s'inscrit dans un processus, je pense que le processus, il n'est pas fermé. Au niveau le plus élevé de responsabilité politique, il n'est pas exclu qu'il y ait de contacts qui se font et qui pourraient compléter les efforts qui sont déjà engagés. De mon point de vue, je pense que les groupes dont vous faites allusion sont des groupes qui sont localisés à l'est du Congo, dans des régions bien spécifiques, mais la question, il faut la considérer d'une manière globale. C'est pourquoi je me dis, s'il y a des groupes qui se disent aujourd'hui engagés pour la paix et la sécurité, c'est un signal fort pour dire on ne peut pas se battre tout le jour, surtout que la situation humanitaire, elle est de plus en plus catastrophique, mais il faut quand même à un certain moment réfléchir et de dire, oui, nous avons des populations qui ont besoin de la paix et de la sécurité, il y a la pauvreté qui découle des conflits armés depuis plusieurs années, et qu'il faut tourner la page, aller vers la paix et la sécurité et toutes les dividendes qui en découlent.
Evariste Moufaoumé, la première résolution, quand je lis le communiqué, est un comité composé des représentants des communautés affectées, de l'EAC, du gouvernement de la RDC, soit constitué pour faciliter la libération des prisonniers sans casier criminel d'atrocité et ou condamnation criminelle. Il s'agit des prisonniers des groupes armés arrêtés par l'État congolais?
Oui, en fait, dans le groupe de discussion, beaucoup de groupes armés ont évoqué le fait qu'il y a certains de leurs qui ont été arrêtés à différents endroits, qui sont dans des lieux de détention dans différents endroits. Et cette question a été portée à l'attention non seulement du facilitateur, mais aussi du mandataire spécial du chef de l'État. Et je pense qu'il y a eu des contacts au plus haut niveau entre le mandataire spécial et la présidence de la République, selon les informations qu'on suivait, vraiment très proche des discussions en Nairobi. Et l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut présenter des listes de personnes clairement bien identifiées qui figurent sur les détenus, mais cela ne suffit pas. Quand on parle de mettre en place un comité, c'est-à-dire c'est une question qui va être minutieusement examinée au cas par cas, pour arriver à essayer de comprendre est-ce que c'est vraiment des faits bénins, des infractions, ou il s'agit des personnes sur lesquelles pèsent des crimes graves. Et tout ça sera apprécié dans le souci de donner un signal dans l'angle de mesure de décrispation, parce que pour les groupes armés, ils estiment qu'ils sont pourchassés, on ne les prenne pas comme de partenaires dans le processus de paix dans cette partie de la République, et que beaucoup d'élèves croupissent dans la misère dans des prisons. Mais ce que j'ai pu comprendre et ce que je sais, c'est que ce sont des questions qui seront examinées. J'ai suivi le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Tshibang, dire par exemple, sur 10 personnes, on pourrait examiner au cas par cas et on pourrait arriver à dire, voilà, sur base des critériums qui sont là, sous examen, 4 pourraient être libérés. Donc, c'est pas qu'on va avoir de listes et en bloc, on va ordonner la libération de gens. Sinon, il y a toutes les questions de droits de l'homme qui entrent en compte, il y a toutes les questions de respect des victimes qui entrent en compte. C'est ça un peu la démarche.
Ce communiqué révèle aussi qu'il sera porté à l'attention du chef de l'État congolais la requête de certains groupes armés d'intégrer les FRDC, les forces de sécurité. On sait que l'Assemblée nationale a demandé au gouvernement de ne pas intégrer dans les forces de sécurité, dont les FRDC, toute personne qui a été active dans un groupe armé en RDC. Comment expliquer qu'à Nairobi, il y a encore cette requête qui revient?
Normalement, ce que moi j'ai senti dans l'expression de beaucoup de leaders de groupes armés, c'est la peur. La peur de dire, et c'est revenu plusieurs fois dans les discussions, nous sommes 10 ans, 15 ans, 20 ans en train de nous battre pour l'intégrité territoriale de la RDC. Nous avons sacrifié une partie de notre jeunesse pour ça. Et du coup, on nous dit, il faut déposer les armes. Et il n'y a pas une autre alternative. Ça, c'est ce que moi, j'ai suivi. que ce soit au sud Kivu, au nord Kivu, en Ituri, au Maniema, au Tanganyika, c'était un peu l'idée de leader de groupes armés. Mais au-delà de ça, les officiels qui étaient là ont réitéré plusieurs fois que la démarche n'est pas dans ce sens. La démarche, c'est de dire il faut intégrer le programme PDDRCS, il faut participer au désarmement et intégrer la stratégie à base communautaire et au cas par cas, sur base des critériums que la République va fixer, les éléments des groupes armés pourront voir dans quelles possibilités ils peuvent intégrer l'armée, pas de manière vraiment globale, mais voir au cas par cas qui répondent à des critères rigoureux qui sont fixés, à un profil qui est fixé. Ça, c'est revenu plusieurs fois. Mais parmi les groupes armés, il y en a qui disent, pour certains d'entre nous, même l'âge ne répond plus qu'on passe à un processus de recrutement. De toutes les façons, ce sont des préoccupations qui ont été évoquées et de mon point de vue, qui seront examinées et qui seront portées à l'appréciation des plus hautes autorités.
Maître Juvenal Mounoubo Moubi, député national élu de Walikale au Nord Kivu, vous êtes cadre de l'UNC et membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Quelle lecture vous faites du communiqué final sanctionnant le troisième round du processus de Nairobi?
Merci beaucoup. J'ai lu le communiqué de Nairobi, le communiqué d'ici décembre 2022. Donc j'ai lu le communiqué d'ici décembre 2022. Alors il y a deux points qui reviennent dans ce communiqué et ça vaut la peine de le souligner. C'est le point en rapport avec le DDR, c'est-à-dire le désarmement, démobilisation et réinsertion. À Nairobi, au fait, ils ont reconnu que c'est le point le plus important, c'est-à-dire c'est la chose la plus importante, c'est la plus grande offre qu'on peut donner aux groupes armés. Raison pour laquelle moi je me disais que ils se sont réunis là-bas. Pourquoi? Est-ce que c'est pour écouter le cahier des charges? Parce que des rencontres pour écouter les cahiers des charges des groupes armés ont déjà eu lieu dans le passé au Congo. Hein? Il y avait une grande rencontre en 2008. À laquelle d'ailleurs j'avais participé comme acteur de la société civile. À l'époque, j'ai travaillé pour Commission Justice et Paix à Goma. C'était à l'ULPGL, la conférence sur la paix dans les deux provinces du Nord et du Sud Kivu, qui ont abouti à des actes d'engagement. Et là, on a écouté toutes les revendications des groupes armés. Il y avait même des leaders communautaires qui étaient là. Est-ce que Nairobi, ça visait à refaire une conférence comme déjà la conférence de Goma? Dans les deux provinces, sur les deux provinces. Et donc, moi, je ne trouvais pas d'utilité à ce que cette réunion se tienne à Nairobi. Et la chose la plus importante, c'est le DDR. Le problème, c'est qu'au niveau de Kinshasa, les programmes DDR ne semblent pas avancer, c'est-à-dire au niveau du Congo. Lorsque vous arrivez à l'Est, vous avez de la peine, en fait, à localiser où se déroulent vraiment les programmes DDR. Où est-ce que les ex-combattants déposent les armes et ils suivent quel programme, quel projet en rapport avec les opportunités du millier. C'est ça le problème. Et donc à Nairobi, je vois ici, il y a le point 4 du communiqué, il y a le point 5 du communiqué, il y a le point 7 du communiqué. En fait, tous ces points reviennent sur les DDR. Et donc on a senti l'importance du DDR après. Après, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'autres issues. Et puis une autre chose, c'est que ça ne sert à rien de vendre l'espoir qui ne va pas se réaliser par rapport aux groupes armés. Je pense que le gouvernement doit faire très attention là-dessus. Des groupes armés, il y en a beaucoup, et vous ne pouvez pas les satisfaire en leur donnant des postes, par exemple dans l'armée, c'est-à-dire l'intégration dans l'armée. Il faut que cela soit clairement dit. Moi, je pensais que le communiqué allait le dire. Mais on voit que le communiqué ne le dit pas expressis verbis. Et donc, ça devait être dit clairement dans le communiqué qu'on n'intègre pas les éléments des groupes armés dans l'armée nationale. Mais cela n'est pas dit. Donc, les groupes armés qui sont là, qui sont représentés, leurs délégués, ont encore cet espoir qu'ils seront intégrés dans l'armée. Et c'est ce qui affaiblit souvent l'élan de la réforme du secteur de sécurité. Alors, autant mieux le dire clairement, et au départ, on sait qu'ils s'attendent pas à ça. et bien organiser les DDR. Donc ça ne sert à rien de se réunir à Nairobi aussi longtemps que sur terrain, il n'y a pas un programme DDR. Et voilà un peu.
Le programme DDR existe, mais n'est pas encore appliqué par manque de moyens financiers, que je sache.
Oui, c'est ça. Et tout l'engagement du gouvernement, ça devait être à ce niveau. Comment mobiliser les moyens? J'ai parlé dernièrement avec le coordonnateur du programme qui se plaignait effectivement qu'il n'y a pas assez d'argent quoi pour financer. Les ambitions sont grandes, il y a beaucoup d'éléments à démobiliser. Et puis, il y a des gens qui sont prêts à déposer les armes, hein, les éléments des groupes armés. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas ces programmes-là. Donc, c'est au gouvernement d'engager une discussion avec les partenaires extérieurs. Hein, parce qu'il est dit quelque part qu'il faut que la communauté internationale finance le pain des DRC. Alors, est-ce que cette discussion, le gouvernement l'a-t-il déjà engagée de manière directe pour dire, voilà, sur les 100% du financement, moi, gouvernement, je fais tout pour mobiliser, par exemple, 60, et les 40%, j'attends que la communauté internationale les mobilise. C'est à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas parler paix. On est la plus grande chose qu'on peut offrir à ces groupes-là pour qu'ils déposent les armes, c'est le DDR. C'est le DDR. À part ça, les revendications ne seraient pas du tout justifiées.
À Nairobi,
donc, les anciennes intégrations ont profité à ceux-là qui en ont profité. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête d'intégrer les éléments des milices dans l'armée congolaise.
À Nairobi, les groupes armés ont demandé à ce que le PDDRCS soit revu parce qu'il y a ce manque de confiance hein, entre eux et l'actuel dirigeant de ce programme. Est-ce que cela ne va pas constituer un blocage, Maître Juvenal?
Oui, ça pourrait peut-être prendre un peu du temps, évidemment, parce qu'il faut de la confiance. Je dois dire que quand quelqu'un est coordonnateur d'un programme comme celui-là, c'est un programme assez sensible, il faut qu'il y ait une certaine confiance. Mais évidemment, c'est difficile aussi de trouver une personne qui peut satisfaire tout le monde, quoi. Vous voyez, c'est difficile. Et donc, alors s'il y a une forte contestation de la personne de Tommy Tambwe à la tête de cette structure, eh bien, ça ne vaudrait vraiment pas la peine d'imposer un processus animé par quelqu'un qui n'est pas légitime ou qui n'est pas appuyé par les uns et les autres. Mais il faut quand même se rendre compte que le changement du coordonnateur d'une telle structure, ça risque quand même de prendre un peu du temps. Et il faut savoir que c'est difficile de trouver une personne qui serait vraiment consensuelle, acceptée par tous ces groupes-là. Parce que tous ces groupes, ils ont toujours des intérêts. Ils ont toujours des intérêts et est-ce qu'on peut facilement trouver une personne qui ne serait pas pointée des doigts, une personne qui jouirait de la confiance de tous ces groupes? Et voilà la question. Donc ça risquerait quand même de prendre du temps et d'allonger le délai, quoi. Et pourtant, on a besoin de la paix. On a besoin que les armes se taisent. On a besoin que ces groupes déposent les armes. On a besoin de voir ces groupes finalement suivre des filières de réinsertion. Et c'est dont on a besoin.
Merci.
Et donc, ça pourrait quand même prendre du temps.
Professeur Nissé Mouhendi, professeur de géopolitique et des relations internationales à l'Université catholique du Graben. Vous êtes aussi directeur du bureau Centre d'études sur la paix et la sécurité. Professeur, votre lecture sur le communiqué final qui a sanctionné le troisième round du processus pour la paix dans l'Est de la RDC.
Alors, bonjour Kelly, bonjour à Juvenal Monubo et à Evariste Mfaume. Alors, lorsque j'ai lu le communiqué, j'ai eu l'impression que il aurait fallu préciser dans les recommandations qui fait quoi. Et ça ne semble pas être le cas de manière très très claire. Par exemple, lorsque je prends la recommandation 8, je me rends même compte que elle est formulée d'une manière évasive. Poursuivre. Non, la recommandation numéro 7 plutôt. Demander à la communauté internationale de soutenir le gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre de la feuille de route. Bon, qui va le demander? C'est pas précis. Alors, lorsque je prends la suivante, la 8, on voit une recommandation qui concerne à la fois les FARDC et les groupes armés, poursuivre l'arrêt des hostilités. Toutes les autres recommandations, sans dire clairement qui fait quoi, donnent quand même la responsabilité au gouvernement, charge le gouvernement. Donc sur 9 recommandations, il y en a 7 qui attribuent des tâches au gouvernement et une seule qui responsabilise les groupes armés, donc la 8, poursuivre l'arrêt des hostilités. Donc ici, c'est une responsabilité partagée entre les deux, mais toutes les autres concernent le gouvernement. Qu'il s'agisse de créer un comité de représentants des communautés affectées, de la CAE, ça dépend de la bonne volonté du gouvernement. Qu'il s'agisse de former le PDDR, comme l'indique la recommandation 4 et la recommandation 5, que ce soit tenir des consultations avec le groupe de 145 territoires encore qu'ici, bon, des réunions avec les représentants de 145 territoires pour offrir des opportunités au peuple de l'Est et de la RDC. Donc, il y a beaucoup de responsabilités qui engagent le gouvernement et qui pourraient encore ici être des prétextes à la mise en œuvre difficile du reste. Alors, lorsque je replonge cet accord dans la suite, c'est communiqué dans la suite des négociations que l'on a eues, j'ai quand même l'impression qu'ils ont respecté le timing du 28 novembre au 6 décembre, pour une fois, mais encore que ici, c'est un round 3, il y aura un round 4 à Goma et à Bunia, il y a eu round 1 et round 2, et si je reviens à ce que Juvenal disait tout à l'heure, Goma, la conférence de Goma devait faire une semaine, elle a fait 3 semaines, celle de Kampala à Munyonyo, elle devait aussi faire un temps très court, mais elle s'est étalée sur une année. Donc, je crois qu'on doit faire attention à la tenue des négociations indéterminées qui n'aboutissent pas à des engagements fermes, qui posent des petits pas, mais lesquels petits pas peuvent toujours devenir de prétextes à la non-application de tel ou tel autre. L'autre élément que j'ai constaté donc dans cette analyse, c'est que ce quatrième round qui aura lieu à Goma et à Bunia se tiendra quand même en RDC. Et je dois souligner ici qu'il y a toujours un avantage à négocier chez soi, que chez autrui. C'était déjà une erreur d'aller commencer cette négociation loin du pays. Donc c'est comme si on étalait de petites querelles entre père de famille et ses enfants. On les amène à l'extérieur pour que on essaie d'en discuter là-bas, comme s'il était vraiment impossible d'en discuter localement. Et on doit se souvenir ici que négocier chez autrui, c'est toujours dangereux. Hein. Berryman a été tué dans un attentat au retour d'une négociation inter-rwandaise, mais à l'extérieur du Rwanda.
Le contenu de ce communiqué, professeur, suffit-il pour mettre fin à l'activisme des groupes armés qui sont dans la partie orientale de la RDC?
Ça ne suffit pas, justement. Ça ne suffit pas parce que il y a des déclarations de bonne volonté. Mais vu le déséquilibre qu'il y a entre ceux qui engagent les groupes armés et ceux qui engagent le gouvernement, je vous ai dit qu'il y a une seule recommandation où je vois vraiment, où je vois que les groupes armés sont concernés. Mais comme il y a beaucoup de recommandations pour lesquelles on devrait attendre des activités, on s'attend à des activités, à des tâches que le gouvernement devrait accomplir, ça pourrait être ici une occasion de prétexte pour ne pas appliquer. Hein, Juvenal vient de parler du PDDR, c'est des difficultés qu'il y aura, par exemple, à redynamiser ce programme de désarmement, hein, trouver un nouveau coordonnateur ou bien trouver des financements. Hein, c'est déjà autant de problèmes qui pourraient nuire à la qualité de l'engagement des groupes armés. Et moi, de manière générale, je crois que la RDC a toujours accordé un peu trop d'importance aux groupes armés. Un peu trop d'importance, que ce soit dans ce que je disais tout à l'heure, donc étaler les faiblesses internes en allant parler à l'extérieur, en mobilisant les voisins pour venir gérer nos petites querelles, accepter ou recourir au tiers pour régler les problèmes domestiques. Pour moi, c'est un problème. Et l'autre problème pourrait être la qualité des participants. Donc, si au Nord Kivu, au Sud Kivu, plus l'Ituri, il y a plus de 129 groupes armés, et qu'à Nairobi, il n'y a eu que peut-être un tiers, et que parmi les plus actifs, il y a des groupes qui n'ont pas participé, le M3, et que si déjà, parmi les groupes qui ont une activité moyenne ou faible, et qui participent aux négociations, ces groupes arrivent quand même à obtenir beaucoup d'engagement de la part du gouvernement. Qu'en sera-t-il lorsqu'il s'agira, qu'il pourrait s'agir de discuter avec les groupes armés les plus actifs. Il pourrait encore poser beaucoup plus de conditions et arracher plus au gouvernement, voyez-vous.
Évariste Moufaoumé, on va prendre ces nombreux auditeurs qui appellent sur notre standard pour réagir au thème de ce soir. On va se rendre dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga pour écouter cet auditeur.
Dieudonné Bangé fils, j'interviens depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Merci de la parole m'accorder. De prime abord, j'avoue éprouver d'énormes difficultés pour digérer cette résolution qui semble aller seulement à l'avantage de ces bourreaux qui ont tué nos compatriotes depuis belle lurette. En tant que libre analyste, j'ai comme l'impression que le fait que ces groupes armés aient émis le vœu de voir les leurs incarcérés autrefois être libres, ceci atteste que ces hors-la-loi sont dépourvus de éléments majeurs et je ne vois pas pourquoi notre gouvernement doit accepter de participer à ces assises pour statuer à la libération ou non de ces derniers. Eu égard à tout ce qui précède et sans être contredit par qui que ce soit, j'avoue que ces propositions ne sont qu'un piège tendu au gouvernement congolais qui se trouve entre les marteaux et l'enclume, car étant impossible pour répondre favorablement à cette requête. In fine, moi je suis convaincu que ces résolutions ne produiront jamais des résultats escomptés, d'autant plus que les rebelles ont fait des recommandations qui pourraient être impossibles quant à leur exécution. Et au-delà de tout, d'aucuns ignorent que même l'Assemblée nationale avait déjà interdit toute intégration des rebelles dans l'armée congolaise et le gouvernement ne peut que respecter la décision de l'organe délibérant, nous avons dit.
Évariste Moufaoumé.
Moi, je pense que c'est un problème de cohérence au niveau des autorités congolaises, au niveau du gouvernement congolais. C'est question d'être cohérent. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on dit que le groupe armé, pour quelle raison que ce soit, parce qu'à Nairobi, on disait, il existe groupes armés, il existe des groupes d'autodéfense, il existe des jeunes vigilants, qu'on appelle des patriotes, ça c'est des termes génériques très très bien connus à l'est du Congo. Mais c'est que j'étais en train de, en tout cas, de suivre au niveau des officiels, c'est de dire, vous n'avez pas de raison, en tout cas, de vous appuyer sur le fait que vous êtes un groupe d'autodéfense, vous êtes un groupe armé, ou un autre groupe de jeunes, de vigilants, mais la seule et la seule structure en charge de la sécurité, ce sont les FARDC, c'est la police, c'est l'ANR. Ça, c'est ressorti dans les discussions. Mais maintenant, si on dit on intègre les groupes armés dans les forces de défense et de sécurité, il faut qu'on soit cohérent. Il faut que cela s'applique à tous les groupes armés. Si pas aujourd'hui, demain. Pour moi, c'est comme ça que je vois la question. Lorsqu'on parle de la libération de groupes armés qui seraient détenus, je l'ai dit avant, il a été dit qu'un groupe de travail, un comité mixte va essayer d'examiner cela. Parce que cela aussi n'exclut pas le fait qu'il y a des éléments des groupes armés qui ont été arbitrairement arrêtés.
Maître Juvenal, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Oicha, au Nord Kivu.
Je suis Jonas Kambale depuis Oicha, au Nord Kivu. Je salue l'engagement du facilitateur dans la recherche de la paix en l'est de la RDC, surtout au Nord Kivu. Il est bon de rappeler que la souveraineté et l'intégrité de la RDC sont à respecter, mais aussi à faire respecter. Concernant la requête d'intégrer les forces de défense et de sécurité, il faudrait plutôt rappeler à ces groupes armés que cette procédure a déjà montré ses limites dans la recherche de la paix, car les cas de défection sont ici de ces procédures, mais aussi le président congolais a été clair là.
Maître Juvenal, brève réaction.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est ce que je disais à l'instant. Donc, si le gouvernement se décide d'intégrer les éléments des groupes armés, eh bien, il se mettrait vraiment en déphasage de la conception actuelle. La conception actuelle, c'est qu'il y a énormément de critiques sur la façon dont cette question a été abordée par les gouvernements congolais dans le passé, avec plusieurs mixages, brassages, et finalement, on a eu une armée qui est assez atypique. Et donc, le gouvernement doit avoir tiré des leçons de tout ça, de tous ces échecs-là du passé. Et donc, la seule chose qui est concevable, et ça nous inquiète pourquoi ça ne démarre pas vraiment, c'est le DDR, c'est le programme DDR. Et d'ailleurs, ce programme DDR, ça devrait avoir beaucoup plus d'ancrage parce qu'on l'a fusionné, on a décidé que ça soit fusionné avec le programme de stabilisation. parce que Starek aussi qui existait avant et qui a découlé du programme Amani, Amani qui a découlé de la conférence de Goma de 2008, avait montré ses limites. Alors ça pourrait avoir maintenant un grand ancrage sur terrain si on sait bien identifier les programmes ou les projets. On peut par exemple lancer les projets des routes, de la construction de la route par exemple, Goma-Massissi-Walikale, ou Walikale-Bukavu en passant par Ombo. Et moi, je suis sûr que les chefs coutumiers, les notabilités, les députés, ils peuvent sensibiliser les groupes, les jeunes gens, à déposer les armes et à intégrer ces programmes de construction des routes. Comme ça, ils sont encadrés, parce que le grand problème à l'Est aussi, c'est le manque d'encadrement de la jeunesse. Ils sont encadrés et ils reçoivent quelque chose à la fin du mois. Voilà des programmes comme ça dont on a besoin pour que les DDR cessent d'être sur papier, pour que ça soit du concret sur terrain.
Professeur Nissé, on va prendre aussi pour vous très rapidement cette dernière réaction qui nous vient de Kinshasa.
Jean-Baptiste Léni, Niamoua depuis la ville de Kinshasa. Nous tenons à saluer certaines de recommandations émises à l'issue de ces processus de paix à Nairobi, notamment sur le respect de l'intégrité et la souveraineté de la RDC. Là où le bas blesse, c'est la requête de certains groupes armés d'intégrer la force congolaise FARDC. Je rappelle ici que c'est pratiquement impossible cette requête car l'Assemblée nationale congolaise avait déjà voté une loi interdisant formellement toute intégration de rebelles dans l'armée congolaise. Car accepter ces genres de requêtes sera certainement de détruire notre armée qui est déjà profondément infiltrée. Moi je trouve que c'est la manière pour ces groupes rebelles et ceux qui les soutiennent de vouloir continuer à s'aimer des tumultes dans le fonctionnement de notre armée pour qu'elle ne soit pas à mesure de défendre l'intégrité territoriale. À d'autres termes, accepter cette requête d'intégration de rebelles dans l'armée congolaise comme l'exigent ces processus de Nairobi, c'est clairement faire un véritable cercle vicieux dans la recherche de la paix en RDC.
Professeur Nissé, commentaire.
J'aime beaucoup ce que l'auditeur dit lorsqu'il parle de cercle vicieux. En fait, on va risquer de continuer à tirer à U et à Dia, donc d'un côté le gouvernement qui refuse de les intégrer dans les forces armées, de l'autre des groupes armés qui réclament d'intégrer les forces armées et qui refusent la démobilisation parce qu'ils ont des expériences négatives, ils ont eu des expériences négatives par le passé. Et donc ici, la clé se trouve dans la capacité que le gouvernement aura de contraindre les groupes armés à démobiliser. Et c'est pour ça que j'ai toujours suggéré que le gouvernement investisse dans sa force militaire et secondairement dans la négociation. Il ne faut pas mettre la négociation en avant et donner l'occasion à des petits groupes armés de formuler des demandes, des exigences avant d'accepter ce que le gouvernement dit. Donc à la longue, ils peuvent être capables d'imposer au gouvernement leur choix. S'il n'a pas la capacité de les contraindre à se soumettre à ses choix à lui. Et donc, une des clés, c'est vraiment dans la force militaire, dans le désarmement forcé, au cas où les groupes armés refusaient le choix que le gouvernement indique. L'autre clé, je l'ai trouvée très importante dans les propos de Juvenal Munubo, que j'apprécie beaucoup ici, investir dans les infrastructures. Ça rejoint la théorie du business for peace. Effectivement, si ces groupes armés qui ont mis leur énergie au service de ce qu'ils appellent la défense de leur terre, ou la défense de leur communauté, et qu'ils désirent vraiment mettre leurs forces au profit de la nation, à travers les FARDC ou à travers d'autres travaux, ça signifie qu'on peut convertir leurs forces en une force patriotique de développement. Donc leur énergie militaire, on la déplace vers le développement et on les utilise sur des chantiers qui vont faire 4-5 ans. Une route, on ne la construit pas en 6 mois. Et ça pourrait corriger les erreurs des anciens programmes DDR où on encadrait des groupes armés pendant 6 mois, on les relâchait dans la nature en leur distribuant des kits de réparation de motos. Donc si on donne à un rebelle un boulot qui va l'occuper pendant 2, 3, 4 ans, où il touche un salaire. Et ils ne doivent pas être les seuls dans ce genre de travaux à forte intensité de main-d'œuvre. On les utilise avec d'autres membres de la communauté. Et comme ça, ils réapprennent à gérer autrement leurs ambitions, à gérer autrement leur vie, à prendre du goût à vivre autrement que par l'utilisation du fusil. Ils peuvent gagner de l'argent, gagner leur vie, prendre en charge leur famille, sans forcément prendre le fusil. Donc c'est ça qu'il faut développer, il faut mettre l'accent sur ça. Et il y a déjà quelque chose qui est effleuré là-dessus dans une des recommandations qui demande que les communautés locales du Maniema soient impliquées, par exemple, dans les grands projets. Alors ça doit être élargi à toute la zone qui a été affectée par les conflits et impliquer les groupes armés et les communautés dans la reconstruction de la nation. On peut utiliser les énergies qui ont été dépensées dans la guerre pour le développement et la construction du pays.
Évariste Moufaoumé, nous sommes à la fin de notre émission. Pensez-vous que le processus de Nairobi serait la solution pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC?
Les conflits à l'est de la RDC sont des conflits qui sont profondément ancrés et qu'il faut les adresser avec des approches qui sont adaptées au contexte de cette zone. Mais pour moi, ce qui est important, après ce round de Nairobi 3, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que au-delà d'écouter les différentes délégations, non seulement des groupes armés, de la société civile, de certains leaders communautaires, ça ne vous a pas échappé, il y a eu une bonne représentation de victimes aussi en provenance des zones affectées par les conflits. Ce qui est intéressant, c'est que il y a de prochains pas qui sont définis dans un avenir très proche, donc à court terme, et qui vont se réaliser à Bukavu, à Goma, à Bunia. Ça répond à des préoccupations telles que soulevées par mes collègues Lissé et l'honorable Monubo. Il y aura des mécanismes de suivi qui vont essayer d'évaluer les avancées qu'on a par rapport aux engagements pris en Nairobi 3. Pour moi, ça, c'est très important. Il y a des actions prioritaires aussi qui seront identifiées pour essayer d'adresser certaines causes profondes, notamment la réponse à cette question des infrastructures ou des services sociaux de base. Est-ce que cela va se réaliser à quelle hauteur? C'est ça toutes les questions qu'il faut se poser. Mais moi, je réalise qu'au niveau des autorités, il faut prendre cette question à bras le corps. Il faut prendre la situation à l'est du Congo à bras le corps. Cette situation, de la manière dont elle est comprise à Kinshasa, c'est pas de la manière qu'elle est vécue sur le terrain.
Merci.
Si on arrive à connecter les réalités du terrain et les actions d'engagement politique au niveau le plus élevé, au niveau de la RDC et au niveau de la région, on peut faire des pas. Quelqu'un l'a dit, c'est des situations structurelles sur lesquelles vous n'avez pas de réponse en des semaines ou en quelques mois. Mais déjà, il faut un départ.
Merci Évariste Moufaoumé. Maître Juvenal Mounoubou-Moubi, ça sera aussi votre conclusion. Faut-il faire confiance à l'engagement des parties prenantes au processus de Nairobi pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC?
Oui, je crois qu'il faut garder un optimisme, hein, mais il faut toujours rester réaliste. On conseille toujours de rester réaliste dans ce genre de situation. Les communiqués, il est bon, hein, surtout qu'il insiste sur la chose la plus importante maintenant, le DDR, quitte à mettre tout ça en pratique. Les communiqués abordent d'autres questions. Prof Nissé l'a évoqué, hein, la question de l'accès aux minerais. Ce n'est pas seulement au Maniema, hein, au Nord Kivu aussi, à Walikale et au Sud Kivu également. Donc on devrait élargir et pas seulement se focaliser sur une seule province. La question de la protection de l'environnement aussi, hein, il faut des projets écologiques autour des parcs. C'est une bonne chose aussi parce que les parcs sont menacés à l'est. Les parcs de Virunga, les parcs de Kahuzi-Biega. Et donc c'est aussi une bonne recommandation. Alors tout ça, l'essentiel c'est de le mettre en pratique. Et il faudrait qu'on veille vraiment que le cessez-le-feu soit une réalité et qu'on évite de créer une zone tampon à l'est parce que il y a crainte effectivement qu'on crée une sorte de zone tampon où le M23, comme il l'a déclaré hier, vouloir se retirer. En se retirant, et que la force régionale occupe ces endroits-là et que l'autorité de l'État tarde à y être déployé. Et là, ça serait comme une sorte de zone tampon. Et ça, il faut refuser, il faut pas accepter cela. L'idée, c'est que le gouvernement reprenne le contrôle sur toute cette partie-là, sur toute cette zone occupée illégalement par ces mouvements terroristes.
Merci, maître Juvenal. Professeur Nissé Mouendi, votre conclusion aussi. professeur Nissé. Je crois qu'on a perdu le professeur Nissé Mohendi. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guimaté Dona Madimba qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission. Merci à Paul Badianyama qui était à la mise en onde, présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.